L'Inde est peut-être le seul grand pays au monde prétend être une démocratie où le gouvernement exerce un contrôle absolu sur toutes les informations à la radio.
Quiconque est très critique à l'égard du gouvernement est qualifié de traître.
La police morale et les militants du RSS, s'ils apprennent que j'ai du bœuf dans mon frigo, ils vont venir vandaliser ma maison et nous tabasser.
C'est bien pire depuis que le BJP est au pouvoir, parce que ils veulent raviver les conflits de castes.
Elle se targue d'être la plus grande démocratie du monde, forte d'une constitution qui prône une république souveraine, socialiste, laïque et démocratique. Mais depuis 2014, un voile safran semble s'être posé sur l'Inde et ses grands principes hérités de l'indépendance. Safran, la couleur de l'hindouisme et celle du parti du peuple, le BJP, du premier ministre Narendra Modi. Sur fond d'ultralibéralisme économique, cet homme, controversé, âgé de 67 ans, matine sa politique de référence religieuse inspirée du mouvement RSS, une milice extrémiste hindouiste dont l'objectif est d'imposer une vision unique de la religion. S'il s'agissait seulement de créer une journée internationale du yoga, comme c'est désormais le cas chaque 21 juin, cela pourrait paraître inoffensif, mais les conséquences sont beaucoup plus violentes et provoquent le malaise. Persécution des minorités chrétiennes et musulmanes avec des conversions forcées à l'hindouisme ou encore interdiction de manger du bœuf, animal sacré, sans risquer sa vie. Des agressions d'universitaires à la pensée différente ou encore de journalistes. Les années Modi rime désormais avec intolérance. Intolérance renforcée par les élections régionales du mois de mars dernier qui ont vu 4 des 5 régions concernées tomber entre les mains du parti du Premier ministre. L'Inde face au nationalisme, les libertés menacées. C'est un reportage de Mathilde Vallant. Pour écouter et commenter ce magazine de la rédaction, nous avons invité Meera Kamdar, éditorialiste au New York Times et auteur de Planète India, l'ascension turbulente d'un géant démocratique publié chez Actes Sud. Bonsoir.
Bonsoir.
Et nous sommes avec Amina Mohamad Arif, chercheuse au CNRS. Vous travaillez au Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud à l'EHESS. Et vous avez publié « Politique et religion en Asie du Sud, le sécularisme dans tous ses états » aux éditions de l'EHESS. Bonsoir.
Bonsoir.
Et avec nous en studio également, Mathilde Vallant. Bonsoir Mathilde.
Bonsoir Anne.
Pour commencer votre reportage, vous avez choisi de nous montrer à quel point les journalistes sont aujourd'hui muselés en Inde.
Alors c'est tout un contexte. Depuis 1925, le nationalisme hindou irrigue la société indienne. Bien avant l'indépendance, le RSS que vous avez mentionné tout à l'heure a pris modèle des fascismes européens pour s'organiser en une milice qui entraîne en fait les muscles à travers les arts martiaux et les esprits pour imposer la Hindutva, autrement dit une orthodoxie. Une vision unique de l'hindouisme. Avec le BJP qui est le bras politique du RSS et qui a pris le pouvoir pour la deuxième fois en 2014, eh bien les nationalistes hindous sont presque en mesure d'imposer cette Hindutva aux 1,3 milliard d'Indiens et évidemment ce sont les minorités qui trinquent. Dans ce contexte, la presse qui est pourtant en plein essor n'arrive pas vraiment à relayer les voix discordantes. Bien sûr, dans les journaux écrits anglophones en particulier, il y a encore quelques grandes plumes, mais en Inde ce sont quand même 90 000 titres de presse diffusés dans 18 langues indiennes. Il se vend 1,5 milliard de journaux chaque jour, si on inclut les magazines en plus des quotidiens. Il y a 900 chaînes de télé. Il n'y en avait que 2 en 84. Et pourtant, comme je le disais, l'institution est muselée. Il s'exerce sur les journalistes une pression politique, judiciaire, physique même. L'an dernier, 5 journalistes ont été tués en Inde. Et le pays figure en bas du classement de Reporters sans frontières à la 133e place sur 180 pays. Anne.
Merci Mathilde. On écoute votre reportage. Et d'abord, Veidju Naravane. Elle a été longtemps la correspondante du quotidien anglophone The Hindu à Paris et elle enseigne aujourd'hui le journalisme à l'université Ashoka au nord de Delhi.
D'abord, on a coupé l'accès aux journalistes. Avec ma carte de journaliste en France, je peux entrer dans les ministères, je peux aller à l'Élysée. En Inde aussi, vous avez une carte officielle de presse et cette carte, avant, vous laissez accès à aller voir les diplomates, les ministres, les cadres supérieurs du gouvernement et tout ça. Maintenant, le mot est motus. Personne ne vous parle. De côté gouvernement, il y a une espèce de censure épouvantable. Deuxièmement, le premier ministre ne donne jamais d'entretien. Il ne tient jamais de conférences de presse. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, c'est ça qu'il a fait. Comme le premier ministre part à l'étranger, normalement, un premier ministre prenait avec lui quelque chose comme 40 journalistes. Il prend aucun. Sauf un journaliste de l'agence de presse gouvernementale, qui est PTI, ou les gens de All India Radio. Et c'est leur tournage qui est distribué. Mais là, vous avez les tournages qui sont que positifs.
Pourtant, le Premier ministre prend la parole, lui, par contre. Il parle, il s'adresse au peuple. Enfin, on ne peut pas dire qu'il est complètement absent des médias.
Non, mais il est quelqu'un qui utilise Twitter. Et je reçois, je ne sais pas, 250 messages du Premier ministre par jour. Mais le problème est qu'en tant que journaliste, vous ne pouvez pas lui questionner là-dessus. Même le diplomate le plus chevronné comme Jaishankar, qui est l'équivalent du secrétaire de Quai d'Orsay, par exemple, juste en dessous du ministre, il ne parle pas avec la presse. Tandis qu'avant, on avait accès libre. Moi, je téléphonais à ces gens. Personnellement, j'avais les numéros de téléphone de tout le monde. C'était une relation de confiance. Ça ne peut plus se passer. Et c'est ça qui montre que les médias ne sont plus libres comme ils l'étaient avant.
À défaut d'être toujours plus libres, les médias sont toujours plus nombreux. Le tirage des journaux a triplé en 10 ans. Il se vend 296 millions de journaux chaque jour, comme si en France on achetait 16 millions de quotidiens. Et il y a presque 900 chaînes de télévision. Malgré cette incroyable vigueur, le traitement de l'actualité n'a jamais été aussi uniforme, notamment à la radio. Goura Takura Paranjoy est le rédacteur en chef de Economical and Political Weekly.
L'Inde est peut-être le seul grand pays au monde qui prétend être une démocratie où le gouvernement exerce un contrôle absolu sur toutes les informations à la radio. C'est quand même étonnant parce qu'en Inde, il y a énormément de chaînes de télé, de journaux qui sont privés, il y a même beaucoup de radios privées. Mais aucune n'a le droit de faire de l'info, à moins de relayer les journaux fabriqués par la radio publique, par All India Radio. En plus, ce qu'on voit depuis 2 ans et demi, depuis que le Premier ministre Narendra Modi est au pouvoir, c'est que cette radio publique a totalement cessé d'émettre la moindre parole critique. C'est comme si elle était devenue le département de propagande du gouvernement en place. Moi, ça me rappelle le milieu des années 70, de 75 à 77, la période de l'état d'urgence en Inde, quand Indira Gandhi était Premier ministre. Elle avait fait exactement la même chose à l'époque. Elle s'était assurée que All India Radio ne dise pas une seule phrase qui puisse être un tant soit peu critique à l'égard du gouvernement. Et en ce moment, on voit que l'histoire se répète 40 ans après.
Mais quand vous dites ça, est-ce que le gouvernement l'admet ? Est-ce qu'il est fier de contrôler la radio ?
Absolument pas. Le gouvernement ne l'admettra jamais. Il n'admettra jamais qu'il est en train de restreindre la liberté d'expression. C'est un droit fondamental garanti à chaque citoyen qui est inscrit dans la Constitution indienne. Et depuis 2 ans, on voit bien que ceux qui sont au pouvoir veulent diviser le pays en 2 groupes, blanc et noir. Ou vous êtes avec nous, ou vous êtes contre nous. Ou vous êtes un patriote, ou vous êtes un traître. Ou vous soutenez la nation, ou vous êtes coupable de sédition.
Avez-vous vu beaucoup de vos collègues modifier leur façon de travailler ?
En fait, une grande partie des médias indiens a toujours été servile à l'égard de ceux qui sont au pouvoir. Donc ce n'est pas vraiment nouveau. Et il y a une citation très fameuse de L.K. Advani qui remonte à l'époque de l'état d'urgence en 77. Il avait dit à propos des journalistes et des patrons de presse, quand on leur demandait de se courber, ils rampaient. Eh bien, moi, je crois qu'il y a encore beaucoup de journalistes qui rampent ou qui font l'impossible pour plaire aux autorités. Et malheureusement, cela occupe des postes très influents dans les médias.
À Bombay, dans un quartier chrétien, Naresh Fernandez a fondé Scroll.in, un site internet qui publie des articles d'investigation. 58 journalistes, 6 millions de lecteurs par mois, ce qui lui permet à l'échelle de l'Inde d'échapper à la vigilance des autorités. Il se prive aussi de toute publicité gouvernementale et d'investissement extérieur.
Vous savez, traditionnellement, les journaux indiens ont toujours été détenus par des industriels. Cela remonte à la période de l'indépendance, en 1947. À l'époque, on parlait de la jute presse, parce que la presse était aux mains des fabricants de toiles de jute. Et c'est drôle, parce qu'en hindi, jute, ça veut dire aussi mensonge. Cela montre la légère suspicion qui entourait déjà ces patrons de presse. Mais dans les premières années de l'indépendance, il y avait une sorte d'idéalisme dans la presse, insufflé par la lutte pour la liberté. C'était encore une institution très respectée. Beaucoup de leaders avaient leurs propres journaux. Gandhi, Nehru, tous ces gens-là. Depuis, comme partout dans le monde, les médias sont dirigés par les milieux d'affaires. Et il y a eu beaucoup de scandales impliquant des journalistes qui ont miné notre crédibilité.
Le pire, c'est que les grands businessmen en Inde, comme Ambani,
Vaiju Naravane, professeur de journalisme,
comme les Tatas, comme Adani.
Ça, ce sont des grandes familles, c'est ça?
Ce sont des grandes familles qui possèdent maintenant les journaux. Reliance Industries, avec M. Ambani, ils ont racheté ce qui est TV18. Alors, TV18, ce n'est pas uniquement une chaîne de télévision en anglais. C'est une chaîne de télévision qui diffuse dans 10 ou 12 langues partout dans l'Inde. Et ce sont des gens qui contrôlent les journalistes parce qu'il y a une précarité d'emploi aussi. Les journalistes sont pris avec un contrat à durée indéterminée de 2 ans uniquement, renouvelable. Et alors un journaliste sait que si je dis quelque chose contre le gouvernement pendant ces 2 ans, je n'aurai pas un renouvellement de mon contrat. Donc il y a une espèce d'autocensure qui est favorisée par la possession des journaux par les amis de M. Modi.
Parce qu'il faut peut-être expliquer, donc, par exemple Reliance, c'est un groupe immense qui n'a pas seulement des journaux, qui a aussi d'autres secteurs d'intérêt et qui est proche du gouvernement.
Très proche du gouvernement, très très proche. Et le gouvernement est en train d'enlever, par exemple, les restrictions ou les normes, ou changer des règlements sur l'environnement pour que M. Ambani, qui est le grand propriétaire de Reliance, puisse avoir les champs de gaz, par exemple, ou qui peut exploiter les champs de charbon. Par exemple, donc il y a une complicité entre ces grands groupes de business et le gouvernement.
Cette critique des actionnaires milliardaires comme Ambani, peu de journalistes osent la faire. D'ailleurs, la plupart refusent même de parler de pression. Mahesh Langa est le correspondant du Hindu à Ahmedabad, la capitale du Gujarat, l'État dirigé pendant plus de 13 ans par l'actuel Premier ministre nationaliste hindou Narendra Modi. Et Mahesh se montre d'abord très prudent.
Dans les grands journaux, c'est-à-dire dans la presse anglophone, je pense qu'il n'y a vraiment aucune pression sur les journalistes. En revanche, il se peut que cela arrive sur le terrain, dans la presse vernaculaire, la presse de langue indienne. Bon, il y a des exemples, comme le Rajasthan Patrika, C'est un journal bien établi dans l'état du Rajasthan qui a critiqué le gouvernement local. Alors l'état central et l'état du Rajasthan, qui sont des gouvernements BJP, ont cessé de lui acheter des pages de publicité. Il faut que je vous dise qu'en Inde, l'état est le plus gros annonceur. Ça va des publicités locales à toutes sortes de campagnes de presse gouvernementales, en passant par plein d'agences publiques.
Mais du coup, il a dû fermer le Rajasthan Patrika ?
Non, c'est un très gros journal localement. Il se bat pour récupérer sa publicité. Les patrons sont allés devant les tribunaux parce que, normalement, un gouvernement ne peut pas couper comme ça arbitrairement la publicité. Elle dépend du tirage des journaux.
Donc, vous diriez quand même que le gouvernement a un certain pouvoir sur les journaux ?
Oui, s'ils veulent l'exercer, il a beaucoup de pouvoir. Mais en général, ça n'arrive pas. Et ce cas au Rajasthan, c'est une exception. Enfin, j'espère que c'est une exception.
Est-ce qu'il y avait déjà des problèmes de liberté d'expression sous le précédent gouvernement dirigé par le Congrès ou sous le gouvernement de Manmohan Singh ?
En fait, je pense que la liberté d'expression ne posait pas de problème avant, parce que le gouvernement, dirigé par le Congrès, était très critiqué par la presse à cause de la corruption et parce qu'il était inefficace. Cela dit, maintenant, avec le nouveau gouvernement arrivé en 2014, le gouvernement BJP, il y a bien des éléments dans le parti, si ce n'est pas au sein du gouvernement, qui adoptent un ton nationalistes et des manières agressives. Donc, ils ont fini par créer des problèmes en remettant en cause la crédibilité des médias et même en les appelant des traîtres. Quiconque est très critique à l'égard du gouvernement ou quiconque essaie d'avoir un discours contestataire est qualifié de traître, de pro-pakistanais ou d'anti-national. Et ça, c'est une nouvelle tendance qui est apparue au cours des 18 derniers mois. Ce qu'ils font, c'est qu'ils salissent des réputations en utilisant les réseaux sociaux. Et le gouvernement embauche des gens pour attaquer les journalistes, les stars de cinéma et tous ceux qui ne soutiennent pas leurs idées.
Quand j'étais en Inde, notamment le correspondant local du Hindu me disait que les ministres au gouvernement central ont insulté des journalistes et que maintenant la pression se fait beaucoup aussi via les réseaux sociaux et des campagnes de déstabilisation. Est-ce que c'est vrai que c'est une pratique récente et en quoi est-elle dangereuse?
Il y a tellement de trolling qui se passe. Moi-même, il y a une expression qui a été utilisée contre moi. Les journalistes qui écrivent des choses contre Modi sont appelés les prostitutes, qui est une déformation du mot prostitute, prostituée. Donc vous êtes une prostitute, pas une prostitute. Et cette expression a été premièrement lancée par la personne qui est devenue un de nos ministres des Affaires étrangères quand même. C'est assez terrifiant. Et moi-même, je reçois tellement d'insultes. Les gens disent que je devais être violée, quelqu'un devrait m'apprendre une bonne leçon, des menaces physiques, à tel point que j'ai un Twitter manager, moi je regarde même pas les messages. Et ça, on a bien vu que le BJP est maître de faire du trolling. Et il y a une journaliste qui vient d'écrire un livre qui s'intitule J'étais un troll pour le BJP. Elle montre comment, au sein de BJP, ils sont tellement forts dans tout ce qui est médias sociaux et tout ça, qu'il y a eu une espèce d'une armée organisée des gens qui font que ça. Ils assument des identités différentes et ils envoient des messages. Souvent, ça vient de même IP server avec l'intention de nuire, avec l'intention de blesser, détruire des réputations, des choses comme ça.
Il n'y a pas que les journalistes qui sont la cible d'intimidation, certains intellectuels et artistes également. Nous voici à Darpana, dans l'académie de danse de Malika Sarabhai, située dans un quartier verdoyant et calme d'Ahmedabad. Malika est danseuse, actrice, elle vient d'une grande famille hindoue, sa mère était danseuse de Bharatanatyam. Personne n'est à l'abri, explique cette militante.
Même si on fait un joke,
une blague
sur un SMS, on peut être pris dans la prison pour la sédition.
Vraiment?
Oui. J'ai beaucoup d'exemples. Il y a un an et demi, un professeur en Calcutta a passé par SMS ou WhatsApp une blague. Il était jeté de son collège, il était mis en prison. En Kerala, il y a quelques mois, quelqu'un a fait un cartoon, une caricature, dans un magazine d'une collège, un petit collège. Et il aussi, il était mis en prison. We have lost all sense of proportion and humor.
Ils ont perdu tout sens de la proportion, c'est ça?
Oui, et j'ai jamais vu sept pays qui vit avec la peur complète, comme maintenant. Et je connais beaucoup des artistes qui vivent en peur, beaucoup des journalistes qui acceptaient self-censorship.
L'autocensure.
L'autocensure. Il y a des choses, parce que c'est contre le gouvernement, personne ne fait le reportage.
Il y a quand même encore des médias courageux, à l'image de Scroll.in, le journal en ligne de Naresh Fernandez. Il résiste encore à la pression qui vient d'en haut, mais sur le terrain, ces journalistes sont mis à rude épreuve.
Je crois qu'on a le sentiment, sous ce nouveau régime, que les gens sont moins libres de parler, de dire ce qu'ils pensent, de rapporter ce qu'ils voient. C'est moins basé sur des faits que sur une perception. Non pas qu'il faille craindre une action du gouvernement, même si cela peut se produire, mais qu'il faut craindre la colère de la foule. La foule inspirée par le parti qui est au pouvoir. Ça s'est produit à plusieurs reprises. C'est arrivé il y a quelques mois à ma collègue Malini Subramaniam. Elle était la seule reporter anglophone dans la région de Bastar, l'épicentre de l'insurrection maoïste. Et elle enquêtait sur la façon dont les tribus locales, les aborigènes, on les appelle des Adivasis, sont pris en tenaille dans ce conflit entre les maoïstes et la police. Un soir, elle a appelé au journal pour dire qu'un comité de citoyens était venu dans sa maison, tard, dans la nuit, pour l'exhorter à ne pas écrire ces choses sur le gouvernement parce que ce n'était pas tout à fait exact. Et la situation s'est envenimée. Ce comité de citoyens avait en fait été organisé en sous-main par la police. Quelqu'un a commencé à jeter des pierres contre sa maison, à la menacer. En l'espace d'un mois, non seulement Malini Subramaniam, mais aussi un groupe de jeunes avocats qui aidaient les Adivasis à porter plainte, tous ont été chassés de la ville. On a fait pression pour persuader les propriétaires de leurs appartements de résilier leurs baux, et c'est devenu impossible pour eux de rester. Et donc, c'est le genre d'événement qui peut vous arriver. L'état du Chhattisgarh, où se trouve le district de Bastar, a envoyé plusieurs journalistes derrière les barreaux. Tout ce qui a à voir avec la violence d'État est particulièrement sensible. Les médias au Cachemire sont régulièrement sous pression. Le Cachemire Reader a été fermé pendant plusieurs semaines et il vient tout juste de rouvrir. Et donc, toutes ces menaces pèsent sur les gens. Dans le cas du Cachemire Reader, c'est bien le gouvernement qui l'a suspendu. Mais en général, il faut surtout craindre les agitateurs et la foule.
Une foule, des militants qui ne se cachent même plus pour agir. Ainsi, le 20 février dernier, des étudiants de Delhi University ont organisé un séminaire intitulé « Comment protester en démocratie ?». Ils avaient invité un étudiant, Umar Khalid, connu pour avoir dénoncé les violences policières au Cachemire. Autrefois inculpé de sédition, il a été blanchi par la justice, mais sa seule présence a paru insupportable. Vaidju Naravane, journaliste.
Puisque les étudiants de Delhi University et de Ramjas College avaient invité ce monsieur pour parler des manières dans lesquelles on peut manifester, ils ont dit, vous avez invité un anti-national sur le campus, on va vous apprendre. Et ils ont attaqué les étudiants.
Alors c'est qui il?
Il, c'est un syndicat d'étudiants qui s'appelle ABVP, ça veut dire Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, qui est effectivement l'arme étudiante de BJP, très liée au gouvernement actuel, et où vraiment, ça me rappelle, ils sont d'une violence, et ce sont des vrais gens lumpen, tu vois, ça me rappelle en fait les chemises noires ou les chemises brunes, tant de Mussolini ou de Hitler. Et on a pris sur caméra quelques-uns des membres de ABVP. Ils disaient non, non, on ne va pas supporter ces communistes, on ne va pas accepter les gens de parti du Congrès. On les tabasse, vous savez, on tabasse les profs. Ouvertement, il dit ça, il est filmé. Et il y a eu des grands incidents. Les gens ont été hospitalisés avec des blessures graves. Les côtes cassées, les fractures crâniennes, des choses comme ça. Ils ont tabassé même les filles, mais le gouvernement n'a rien fait. Et il y a une certaine complicité de la police, parce que la police leur a dit, écoutez, les médias ne sont pas encore sur scène, on peut vous laisser un peu de temps pour faire votre business, mais dès que les médias sont là, on ne peut pas vous laisser faire.
Mais comment c'est ça? Ça a été filmé, ça aussi?
Ça a été dit par ce jeune militant de ABVP qui a été filmé. Donc, ce gouvernement encourage ce type de comportement. Très facilement, on passe à la violence. On utilise les poings. Et si on parle de la censure, c'est de là où vient la censure. Parce que les gens ont physiquement peur de s'exprimer.
Il n'y a pas que la liberté de s'exprimer, d'organiser des débats qui est bafouée. Celle de se nourrir comme on le souhaite également. Abida Desai est musulmane, son mari a failli être lynché en 2002 pendant les émeutes d'Ahmedabad. Et aujourd'hui, le gouvernement BJP du Gujarat s'en prend à ce qu'elle pourrait mettre dans son assiette.
Oui, c'est devenu une routine au Gujarat et à Ahmedabad où nous nous trouvons. Très régulièrement, la police morale et les militants du RSS, cette organisation paramilitaire où les volontaires font la promotion du nationalisme hindou, tous ont décidé que ce n'était plus possible de consommer et d'abattre des vaches. Par exemple, s'ils apprennent que j'ai du bœuf dans mon frigo, ils vont venir vandaliser ma maison et nous tabasser. Et pendant notre festival, pendant l'Aïd, quand on sacrifie des animaux, ils sont particulièrement vigilants. Ils nous attrapent et ils nous battent. Les musulmans ne comprennent pas tout ça, mais ils devraient le comprendre, que c'est interdit par le gouvernement. Ils devraient être raisonnables, laisser les vaches mourir toutes seules et ne plus manger de bœuf. S'ils veulent absolument de la viande, ils devraient manger du mouton au lieu de mettre leur vie en danger et de ternir l'image de notre communauté.
Mais alors, comment expliquer justement qu'ils continuent à consommer du bœuf ?
Vous voyez, pendant l'Aïd, on peut sacrifier toutes sortes d'animaux, des chèvres, des vaches, des buffles. Mais la chèvre coûte beaucoup plus cher. Et puis, une seule famille va pouvoir la sacrifier, alors que les vaches, elles sont moins chères. Et quand vous avez un gros animal, une vache ou un buffle, on peut s'associer à 7 familles pour le sacrifice. C'est plus rentable.
Mangesh Dahivale est un intouchable, un dalit converti au bouddhisme. Pour lui, l'objectif de cette interdiction du bœuf est assez limpide.
Vous savez, dans la religion hindoue, la vache est censée être sacrée. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Pendant l'âge védique, 1000 ans avant Jésus-Christ, tout le monde mangeait de la viande de vache en Inde. En fait, interdire l'abattage des vaches, c'est une question politique. Parce que les nationalistes hindous veulent créer l'impression qu'il y a des musulmans qui sont anti-hindous. C'est vrai que la vache n'est pas sacrée pour eux. Les musulmans, les dalits, les intouchables ont toujours mangé du bœuf. Parce que ce n'est pas cher, c'est facile d'en trouver. C'est un grand animal, pas besoin d'en abattre beaucoup. Je ne milite pas pour l'abattage des bêtes. Mais je pense qu'on ne devrait pas contrôler les choix alimentaires des gens. Si vous voulez interdire, vous interdisez tout. Mais ce n'est pas une bonne façon de faire, parce que l'Inde est une république démocratique et séculaire, et chacun a le droit de choisir ce qu'il veut manger. Le droit de manger est un droit fondamental.
Et quelles sont les conséquences de ce beef ban ?
En fait, il y a tout un cycle commercial. Si vous interdisez l'abattage des vaches, vous vous retrouvez avec plein de vieux animaux dont personne ne s'occupe. Des cheptels entiers de vieilles vaches. Et il y a aussi tout le travail du cuir qui est fait par les intouchables et qui souffre énormément. En même temps, les pauvres, en particulier les musulmans, n'ont plus grand-chose à manger. Donc ça a créé à la fois une vraie division entre les communautés, hindous, musulmanes, intouchables. Et ça a affecté tout un pan de l'économie.
Depuis quelques semaines, dans le Gujarat, l'abattage des vaches est devenu un crime passible de la prison à vie. Martin Makhvan est un grand militant dalit dans la région. Il raconte comment toute une milice se charge de faire respecter ces nouvelles interdictions, ce beef ban.
Ces comités de défense de la vache, ce sont des sortes d'armées privées, d'extrême droite. Ils ont organisé tout un business à travers le pays, parce qu'il y a une loi qui oblige à déclarer les transports d'animaux au gouvernement. Et quand il faut des permis comme ça, la corruption s'installe. Sans ces permis, vous êtes contrôlé tous les 3 ou 4 carrefours. Les militants vous attrapent et la police est complice. En fait, ils sont des centaines. En plus, ils ciblent les bouchers musulmans, même ceux qui ne vendent que du poulet. Ils les obligent à verser une taxe, en roupies, chaque mois. Sinon, ils menacent de les traîner devant les tribunaux sous le faux prétexte qu'ils vendent du bœuf. Tout ça, c'est de l'argent facile et ils sont protégés par la police.
Est-ce que vous pouvez me raconter ce qui s'est passé à Una tout récemment ?
Dans le district d'Una, ici, dans le Gujarat, en août dernier, il y a un tout petit village où les Dalits, depuis toujours, traditionnellement, s'occupent d'écarissage. L'été dernier, ils ont reçu un appel d'un notable du coin disant qu'un lion avait attaqué une vache. « S'il vous plaît, venez la chercher !» Donc, ils ont récupéré la carcasse et soudain, les militants des comités de vigilance ont surgi. Avant même qu'ils aient pu s'expliquer, ces militants les ont tabassés. Quelqu'un a pris une vidéo de tout ça. Ensuite, ils les ont amenés en ville, à 18 km de là, dans la principale station de police. Et on les a attachés à l'arrière d'une voiture. On pouvait lire le logo de la police sur le véhicule. Les flics ont apporté des matraques aux militants et vous avez vu la vidéo pendant qu'ils les tabassaient, qu'ils insultaient leur mère, leur sœur. Les policiers se moquaient des Dalits.
Et ensuite, il y a eu un vrai mouvement de protestation intouchable.
Oui, pour la première fois, ils ont décidé de boycotter ce travail d'écarissage qui est réservé à leur caste. Et maintenant, dans toute la région, il y a des milliers de carcasses qui ne sont plus ramassées. D'ailleurs, ça a créé au moins une quinzaine d'incidents où les intouchables ont refusé de faire leur travail et ont été tabassés.
Vous dites que l'interdiction de la viande de vache a toujours existé, mais est-ce que ça s'aggrave aujourd'hui ?
Le Gujarat a toujours été un État modèle. C'est d'ici qu'est partie la lutte pour l'indépendance. C'est aussi ici que les nationalistes hindous sont arrivés au pouvoir avec Advani. C'est une région où il y a beaucoup d'argent et des vrais conflits de castes. Et puis, ici, les croyances religieuses fondamentalistes sont très fortes. En Uttar Pradesh, dans cet état du centre, il y a aussi eu des lynchages récemment. C'était surtout à cause des élections régionales qui approchaient. Ils voulaient diviser les électeurs, polariser le vote. En tout cas, ces interdictions ont toujours existé. Mais c'est bien pire depuis que le BJP est au pouvoir. Parce que, et ça c'est mon opinion personnelle, je pense qu'ils veulent perpétuer le système des castes qui perd de son intensité. Ils veulent raviver les conflits de castes. Prenez le Népal, par exemple. C'était le dernier grand empire hindou. Eh bien, il y a une fête religieuse où ils sacrifient des centaines de vaches. C'est une cérémonie religieuse. Personne ne proteste. Ici, les hindous protestent pour d'autres raisons.
Début avril, un musulman a été battu à mort sur une route du Rajasthan par des extrémistes hindous qui l'accusaient de transporter illégalement une carcasse de vache. Ces meurtres sont de plus en plus fréquents. Vaidjuna Ravani.
Les lois ont toujours existé, mais l'abattage de vaches a aussi continué. C'est-à-dire, quelque part, dans la politique directive, dans la Constitution, il y a une clause qui dit que les gouvernements feront tout pour la protection de la vache. Mais on a 180 millions de musulmans, on a 35 millions de chrétiens, on a je ne sais pas combien de millions de dalits qui étaient les intouchables d'autrefois et beaucoup de bascas qui mangent de la viande de vache. Et là, soudainement, eux, ils ne peuvent pas manger de la viande. Il n'y a que 5 ou 6 états dans lesquels cette interdiction de tuer les vaches n'a pas été mise en route. Dans la majorité des États, c'est devenu un crime. Et c'est ça que je reproche à ce gouvernement, c'est qu'il ne contrôle pas ces groupuscules hindouistes parce qu'effectivement, ils veulent que le discours majoritaire hindouiste, nationaliste, passe dans les villages, dans les campagnes, d'où viennent les votes.
Écoutez le magazine de la rédaction sur France Culture, reportage Mathilde Vallant, réalisation Annie Bro. Nous sommes toujours avec nos invités, Amina Mohamed Arif, chercheuse au CNRS, spécialiste de l'Inde et de l'Asie du Sud à l'EHESS, et Mira Kamdar, éditorialiste au New York Times. Mira Kamdar, à travers l'exemple de la viande de bœuf, on entend à travers le reportage qu'il y a une montée de tensions entre les communautés en Inde. Alors ce n'est pas nouveau, il y a toujours eu des phénomène de crispation autour de la vache qui est donc sacrée pour les hindous. Mais aujourd'hui, cela s'accentue. Le pouvoir endosse la responsabilité de tous les crimes dont on vient de parler.
Jusqu'au passage de la loi récente au Gujarat qui interdit explicitement d'abattre les vaches, on a vu, enfin, dans les mois précédents, une montée dans tout le pays d'une sorte de tolérance de la part du gouvernement, de ces espèces de milices. D'ailleurs, il y a des milices spécialisées dans la défense de la vache qui s'appellent des Garraksha. Et on a vu la montée de ces groupes et de leurs activités violentes. On a parlé du lynchage de ces hommes dalits qui étaient attachés à leur véhicule devant la police, etc. Le lynchage, c'est une manière, le lynchage et toute attaque physique, même les violences dans les universités, c'est une façon de la majorité de faire comprendre à la minorité que personne ne vous protégera. Que voilà, vous êtes à notre merci en tant que minorité.
Amina Mohamed Arif, le BJP qui est à l'origine de cette politique, il était déjà arrivé au pouvoir dans les années 90. Il est de retour donc depuis 3 ans ce parti. Est-ce qu'il a changé de nature avec Narendra Modi ?
Ce qui a changé notamment, c'est déjà le fait que le parti soit ne soit pas dans un gouvernement de coalition, mais soit ait la majorité absolue au gouvernement, à l'Assemblée. Ce qui lui donne une marge de manœuvre considérable pour pouvoir appliquer ses politiques ou avoir une marge, enfin voilà, appliquer ses politiques dans le pays, au moins au niveau national, même si après au niveau local, les gouvernements ont une liberté de manœuvre quand même assez importante. Mais simplement par rapport à la question de la vache, puisque, enfin, juste pour rebondir sur ce que disait Mila, on peut rappeler que historiquement, la question de la vache a toujours été un thème fédérateur de mobilisation très important pour les nationalistes hindous. Depuis déjà la période coloniale, c'était le thème de fédération, d'unité, d'essayer de tenter d'avoir une unité des hindous autour de la vache. Voilà.
Avec ce fameux épisode de la révolte des cipayes en 1857, c'est ça qui était lié aussi à la vache.
Effectivement, mais pas seulement. Cette idée que, par exemple, au moment de la période... Pendant la période coloniale, les musulmans avaient l'islam comme thème fédérateur et les hindous aussi avaient besoin d'un thème fédérateur. Et l'un de ces thèmes a vraiment été la question de la vache, de sa protection, ce qui était une façon à la fois de s'opposer aux colonisateurs et également aux musulmans consommateurs de vaches.
Mais il faut quand même dire que la loi toute récente qu'a évoquée Meera Kamdar tout à l'heure, c'est une loi maintenant qui punit de la prison à vie la consommation de bœuf, notamment au Gujarat. Donc c'est quand même une évolution. Je voulais demander à Meera Kamdar, à propos du BJP, il a quand même connu une victoire, enfin plusieurs victoires électorales toutes récentes, notamment en Uttar Pradesh, qui est quand même l'État le plus peuplé en Inde, donc 200 millions d'habitants, pour avoir une idée de la taille de cet État. État dans lequel d'ailleurs il y a pas mal de musulmans. Et on a nommé, enfin, le gouvernement central a nommé dans cet État carrément un prêtre hindou à la tête de cet État, qui est un homme assez particulier et très controversé, Mira.
C'est pas n'importe quel prêtre hindou, c'est quelqu'un qui est à la tête d'une sorte de secte hindoue, qui a une certaine histoire, mais lui, il est particulièrement militant, et avant d'être nommé ministre en chef de cet État, il avait émis des propos les plus violents contre les minorités de l'Inde, par exemple menaçant à tout musulman qui refuserait à faire la salutation au soleil du yoga, de le jeter à la mer, ça se dégrade en fait de là. Et donc c'est très intéressant qu'en nommant cette personne, mon analyse personnelle, et il faut que je dise que tout ce que je dis ici est mon analyse personnelle et n'est pas forcément l'opinion du New York Times. Donc dans mon opinion personnelle, je pense que le BJP a fait un calcul après cette série de victoires, notamment écrasant en Uttar Pradesh, en se disant, bon, maintenant on peut se passer de la vote musulmane. On a suffisamment fédéré les basses castes à nous pour s'en passer, et donc on va plus faire prétexte, on va nommer cette personne qui en aucun cas ne peut être considérée comme un politicien qualifié ou laïque, parce que notre but, et ils n'en ont jamais fait un secret, c'est de transformer la République laïque indienne en un État hindous.
Amina Mohammad Arif, c'est vrai que cette victoire en Uttar Pradesh, c'est un pas énorme pour Modi, pour le Premier ministre.
Absolument. C'est vrai qu'à un moment, lorsqu'il y a eu la démonétisation, on a pu penser qu'éventuellement, le BJP allait marquer le pas, parce que ça a été quand même très mal organisé.
Il faut dire que c'est juste la disparition de tout l'argent liquide quasiment dans le pays.
Voilà, pour la lutte, c'était dans un objectif de lutte contre la corruption. Mais en même temps, ça a été tellement mal organisé que ça a suscité énormément de critiques dans le pays. Donc on a pu penser à un moment que peut-être le BJP marquerait le pas après ce relatif fiasco. Et en fait, pas du tout. Ils ont remporté les élections haut la main dans donc l'état le plus peuplé de l'Inde. Et on nommait donc quelqu'un qui est vraiment un extrémiste, qui a fait de la prison aussi, pour incitation à la violence entre communautés religieuses. Et donc là, c'est un signal très très inquiétant. Pour la démocratie, pour
alors justement, on en parlait en introduction, dans la constitution indienne, il y a ce principe de la laïcité. C'est un principe qui apparaît fondamental au vu de la diversité religieuse dans le pays. Il est menacé aujourd'hui, elle est menacée cette laïcité par le nationalisme
indien. Elle est effectivement menacée. Pourtant, le sécularisme en Inde, c'est vraiment une belle invention. C'est pas la laïcité ni à la française ni à l'américaine. C'est l'idée d'un traitement sur un pied d'égalité de toutes les religions. Et c'est vraiment l'idée d'accommoder la pluralité religieuse en Inde. Et là, effectivement, il y a de menaces, de sérieuses menaces qui pèsent sur le sécularisme. Très clairement en Inde aujourd'hui.
Oui, et puisqu'on parle de la Constitution, justement, on voit quand même que normalement, la liberté d'expression, parce qu'on va aussi parler de la liberté d'expression, pas seulement la liberté de manger ou pas de la vache, on voit que cette liberté d'expression, elle est quand même normalement garantie par la Constitution, Meera Kamdar.
Elle est garantie par la Constitution, mais elle n'est pas absolue. Il y a plusieurs limitations formelles dans la Constitution à la liberté de l'expression et dans le code pénal indien aussi, il faut le dire, dont trois qui sont les plus importants et dont on abuse le plus aujourd'hui, qui sont la diffamation, ce sont des crimes, hein, la diffamation, la sédition et blesser les sentiments religieux de quelqu'un ou d'un groupe. Et ce sont ces trois crimes dont on se sert de plus en plus pour faire taire les gens et pour intimider les gens.
Vous avez des exemples?
Pour la diffamation, il y a eu un procès récent, assez récent, où on a mis quelqu'un en prison pour la diffamation, pour blesser les sentiments religieux. Il y a un poète qui a été mis en prison, mis en examen, ce mois-ci. Donc c'est tout récent, à cause de ces poèmes qui auraient blessé les sentiments religieux des hindous.
Et en janvier 2016 aussi, la chaîne de télé NDTV a été obligée de s'arrêter 24 heures, sanction du gouvernement parce qu'elle a donné des détails sur une attaque terroriste qui était en cours. Alors on entend aussi dans le reportage qu'il est difficile aujourd'hui de couvrir les régions limitrophes avec le Pakistan, notamment le Cachemire. L'argument du terrorisme, c'est commode pour restreindre la liberté d'expression, Amina Mohammad peut-être ?
Oui, le terrorisme est vraiment cette idée d'être traître, l'idée du traître, l'idée d'être antinational, c'est une idée qui est exploitée et qui est vraiment l'élément accusateur qui en fait cloue le bec entre guillemets des universitaires, des journalistes, des gens, des médias, des activistes qui ça prend des proportions extrêmement importantes. Et ça vise non seulement les intellectuels, également la minorité musulmane, qui déjà avant le gouvernement Modi était souvent soupçonné d'être une cinquième colonne du Pakistan de ne pas être totalement loyaux à la nation indienne. Et pour eux, en particulier, c'est devenu encore plus compliqué d'exprimer la moindre critique à l'égard du gouvernement parce qu'ils seront immédiatement taxés d'être anti-loyaux, anti-nationaux, traîtres, etc.
Meera Kamdar, sur cette question quand même du Cachemire, par exemple, est-ce que parfois on lit des articles critiques dans les journaux, ça arrive ou pas ?
Il y a quand même, et d'ailleurs c'est Naresh Fernandez qui l'avait mentionné dans le reportage, de la presse au Cachemire.
Le Cachemire Reader.
Le Cachemire Reader, par exemple, que le gouvernement a fermé l'année dernière, en juillet de l'an dernier, il y a un militant qui a été tué par les forces de l'ordre, qui avait beaucoup de cotes dans le Cachemire, un jeune, et il y a eu des émeutes, beaucoup de violence après, la population a réagi très vite. violemment à sa mort. Et donc, le Kashmir Reader a été fermé. Il faut dire aussi que le gouvernement indien, et ça peut dater d'avant Modi, mais alors que ça s'est empiré depuis, couper la communication et l'accès à l'information dès qu'il y a un peu de violence publique. Donc couper l'internet, couper les réseaux de téléphone mobile,
etc. Mais au Kashmir, vous voulez dire ?
Au Kashmir, oui, ça s'est fait très spécifiquement l'an dernier et très récemment. Il y a eu encore de nouveau, parce qu'il y a eu ce jeune Kashmiri qui était attaché à un 4x4, un Jeep, par l'armée. Et tout ça a été filmé, ça a provoqué quand même une vive émotion dans le Kashmir. Ils ont tout de suite coupé la communication et l'accès à l'information. Donc ça, ça se passe assez fréquemment en Inde, autant que quand on y a accès, comme Amina a dit, ou Vaiju dans le reportage, c'est dominé donc par les comptes Twitter du gouvernement, c'est policé par ces milices des trolls sur Twitter.
Alors etc. Justement, on voulait vous poser la question parce que ces trolls dont parle à un moment Vaiju Naravane dans le reportage laissent à penser que Internet, finalement, c'est pas du tout un espace de libre expression, mais a priori on imagine qu'il y a peut-être quand même la société civile ou d'autres types de discours qui sont accessibles sur Internet, non ?
Bah oui, ce sont accessibles, mais de moins en moins. Il faut aussi, dans le lot de tout ce dont on discute, le gouvernement de Modi s'est attaqué à la société civile. Il a coupé les fonds à toutes sortes d'organisations non gouvernementales. Il a fermé, il a forcé la fermeture de centaines d'organismes de société civile. Donc là aussi, ça va pas très fort.
Et concernant les réseaux sociaux, justement, il y a fait référence dans le reportage. C'est un espace de liberté ou un espace de censure avec l'intervention du BJP?
Je pense que c'est les deux. Enfin, évidemment, par exemple, WhatsApp est c'est le moyen de communication de préférence pour tous ceux qui veulent organiser une manifestation, voilà, une émeute, tout ce qu'on veut, ou juste communiquer sans qu'on surveille. Mais c'est aussi un lieu de censure. C'est en fait un lieu de bataille entre la libre expression de tout genre, d'ailleurs, la propagande, la désinformation et tous ces milices de trolls sur Internet qui sont là pour faire peur.
Alors justement, vous qui êtes journaliste, vous avez été victime de ces trolls ?
Bah oui, moi, comme Vaiju, j'ai été traitée de prostitute. En plus, comme je suis en dehors de l'Inde, je suis traitée de antinational, étranger, de tous les noms, hein, oui.
Oui. Oui, Mathilde, peut-être.
Amina Mohamed, on souhaitait aussi parler de ce dont vient de parler Mira Kamdar, à savoir la société civile qui est malgré tout extrêmement vigoureuse en Inde, mais que le gouvernement essaye de museler. En particulier, ils se sont beaucoup attaqués ces derniers temps aux grosses ONG, aux grosses organisations non gouvernementales, à travers un mécanisme, une loi, la FCRA, qui coupe quand même à ces organisations tout financement étranger, tout financement extérieur. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui doit nous inquiéter ? Par exemple, Greenpeace a perdu une grande partie de ses financements et plein d'autres ONG très connues.
Alors, ça ne touche pas que les ONG. Effectivement, ça s'insère dans un ensemble de restrictions qui touchent notamment les ONG qui sont perçues comme des organes étrangers et donc voilà susceptibles d'être manipulés par l'extérieur et non indiens, puisque l'idée donc des nationalistes hindous, c'est vraiment l'idée du territoire indien, et donc tout ce qui vient de l'étranger est potentiellement un danger. Mais effectivement, ça s'insère dans une attaque contre la société civile qui touche aussi beaucoup les universitaires, qui touche les artistes. Et donc on a parlé des journalistes, mais également même Bollywood, par exemple, qui pourtant était le symbole du sécularisme en Inde, est considérablement polarisé entre ceux qui soutiennent le gouvernement et ceux qui n'ose plus le critiquer. Et donc, voilà, la question des ONG s'insère totalement dans cette situation-là.
Il y a eu toute une polémique récemment, dont on n'a pas parlé dans le reportage, mais qu'on m'a raconté, contre, par exemple, un producteur de film, enfin un réalisateur.
Karan Johar.
Voilà, qui avait embauché un acteur
pakistanais. Absolument.
Karan Johar qui s'est senti, et d'ailleurs, dans la presse indienne aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de lire de près, mais apparemment, il exprime avoir aujourd'hui des regrets. Mais à l'époque, il s'est senti obligé de se faire filmer, diffuser une vidéo sur YouTube où, le plus abjectement possible, il s'est excusé d'avoir eu le très mauvais jugement d'avoir engagé cet acteur pakistanais, mais qu'il n'était pas antinational, qu'il aimait l'Inde, que rien, même sa famille, n'était pas, voilà, pas plus important, plus près de son cœur que la patrie.
Oui. Alors, si même Bollywood est touché, Amina Mohamed Arif, quels sont les derniers garde-fous pour préserver le pluralisme de la société indienne actuellement?
Alors, heureusement, il existe encore des universitaires qui résistent, des journalistes qui résistent, des artistes qui résistent, une société civile quand même qui est très diversifiée et qui tente, pas avec les moyens du bord et dans la mesure du possible, de résister. Il y a une comparaison très intéressante avec l'état d'urgence d'Indira Gandhi entre 75 et 77. Et là, ce qui est intéressant quand même de constater, c'est que c'était, il y avait une censure de la presse, etc., et de la société civile, mais dans un contexte d'état d'urgence, alors que là, actuellement, en Inde, la constitution est officiellement maintenue, et malgré tout, on est dans une situation similaire de censure et de, voilà,
Ça n'empêche pas la Cour suprême de statuer, comme récemment, le nom de l'Inde devait être changé.
Si vous voulez, les atteintes contre les médias, la presse, etc., touchent également le judiciaire. C'est pas seulement les médias, c'est également le judiciaire où le gouvernement tente notamment de nommer, d'influer sur la nomination des juges à la Haute Cour.
Oui, c'est juste.
Et donc l'indépendance aussi. Ouais. De la justice est remise en cause.
J'ai retrouvé ce que je voulais vous dire. C'est la Cour suprême qui a refusé récemment d'imposer le nom de Bharat pour désigner.
Oui, il peut y avoir aussi parfois une résistance, une résistance de la Cour suprême, mais un bras de fer véritablement entre l'exécutif et le judiciaire. Voilà. Mais les réseaux sociaux aussi peuvent rester, comme le disait Mira, très actifs aussi dans la défense du sécularisme et contre Modi. Donc, tout espoir n'est pas perdu, mais la situation reste.
Juste très rapidement, c'est cette même Cour suprême qui a approuvé l'obligation de tout le monde de se lever au début des séances au cinéma lorsqu'ils entendraient l'hymne national.
Vous qui êtes d'origine indienne et américaine, Mira Kamdar, pour terminer, peut-être peut-on faire un parallèle avec les États-Unis et Donald Trump qui ne cache pas son mépris pour les journalistes?
On est quand même très loin aux États-Unis, très loin derrière l'Inde. Enfin, j'espère qu'on ne partira pas sur le même chemin, mais on a quand même la liberté de la presse est beaucoup plus vigoureuse aux États-Unis que malheureusement en Inde. Il y a certains parallèles. Limiter l'accès des journalistes au gouvernement. Là, l'administration Trump
s'y embarque
exactement de la même façon que Modi. Les conférences de presse où nous, par exemple, on est persona non grata, New York Times, et où sont admis que de la presse vue comme bien disposée envers le gouvernement. Il y a l'exemple de notre nouveau ministre des Affaires étrangères, Rex Tillerson, l'ancien chef d'Exxon, qui est parti en Chine avec un seul journaliste dans son avion, alors qu'anciennement, il y en avait beaucoup. Il y a le fait que le président se passe totalement de la presse pour communiquer directement avec le peuple par Twitter. Il y a aussi le fait qu'il avait installé à côté de son Oval Office, comme on dit, le cabinet ovale, Stephen Bannon, le chef de Breitbart, donc organe de la propagande de l'extrême droite. Mais pour l'instant, on ne subit pas les mêmes menaces, les mêmes violences. Et pour l'instant, nous, de toute façon, au New York Times, on dit tout ce qu'on veut.
Merci d'avoir été notre invitée, Mira Kamdar, éditorialiste au New York Times. Et merci à vous, Amina Mohamed Arif, chercheuse au CNRS. Le magazine de la rédaction a été signé Mathilde Vallant, réalisation Annie Bro, à la technique Anthony Thomasson. Vous pouvez retrouver et commenter ce magazine sur notre site internet franceculture.fr.
C'était une rediffusion de l'émission du 21 avril dernier. Thank you.